vous suit.
Voici les titres du journal.
Chômage, solitude, pression, et si on en parlait autrement? Une autrice romande sort une BD humoristique et touchante sur un sujet encore trop souvent tabou, le chômage chez les jeunes. Elle vient d'être publiée par les éditions Jobé Truffert, basée à Montreux. 6 ans après la fermeture des bains de Valdilier, rien n'a vraiment changé. Les procédures juridiques sont toujours en cours et les investisseurs ou potentiels repreneurs ne se pressent pas au portillon. On fait le point avec Ismaël Perrin, président de Valdilier. Et puis enfin, en football, l'équipe féminine suisse a essuyé une défaite pour son premier match de l'Euro à Bâle face à la Norvège. Un score final de 2-1 qui n'entache pas le moral et la détermination des joueuses.
Pour la météo, un temps caniculaire pour aujourd'hui. Demain, on poursuit sur ces températures très élevées. On fait un point complet sur la météo à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Léa Jeannot. Bonjour Léa.
Bonjour Axel, bonjour à tous. C'est une bande dessinée qui aborde un sujet encore trop souvent passé sous silence, le chômage chez les jeunes. Au chômage et alors, de Laura Teignier vient tout juste de sortir en librairie. L'ouvrage est publié par les éditions Jobé Truffert, basé à Montreux. Dans ce livre graphique, l'autrice y raconte avec humour et lucidité son propre parcours entre fin d'études et passage à l'ORP en pleine crise du Covid. À travers un petit personnage expressif, elle met le doigt sur le système de recherche d'emploi, les remarques parfois blessantes de l'entourage et la difficulté de rester optimiste face à un avenir incertain. Mais pourquoi s'attaquer à ce thème en particulier? Interrogée par Julie Gay, l'autrice Laura Teignier raconte ce qui l'a poussée à écrire cette BD.
C'est suite à 2 passages en fait au chômage que j'ai eu envie d'abord pour moi de mettre à plat mes ressentis par rapport à cette expérience. Donc c'était un peu d'abord thérapeutique, que j'avais besoin de mettre en dessin en fait mon expérience, mes ressentis, mes émotions par rapport à cette expérience. Donc à ce moment-là, je sortais d'un master en lettres et sciences humaines et je ne me trouvais pas comprise par l'ORP, par la société, et puis je ne trouvais pas l'ORP adapté. Et c'est ensuite suite à ça que je me suis dit que peut-être que j'étais finalement pas la seule à vivre ça, d'avoir le sentiment aussi d'être assez seule dans cette expérience, parce qu'au final, c'est quelque chose qui reste assez tabou, le chômage. Donc, l'envie de partager ses expériences, ses ressentis, ses émotions avec d'autres personnes est venue par la suite, parce que voilà, j'avais envie de mettre en lumière certaines choses qu'on peut vivre quand on est au chômage.
Et la suite, eh bien peut-être un nouvel ouvrage. Laura Teignier réfléchit déjà à un deuxième tome, cette fois consacré au monde du travail.
Il y a 6 ans, en 2019, les bains de Valdilier fermaient leurs portes.
En cause, la mise en faillite de 3 sociétés responsables de la gestion du lieu. De nombreuses procédures juridiques ont ensuite été lancées. Certaines ont abouti, d'autres pas, d'autres encore se sont rajoutées. Mais comme Ismaël Perrin, président de la commune de Valdilier, le confirme, la situation n'a pas évolué depuis.
Effectivement, aujourd'hui, la situation n'a malheureusement pas changé. Donc, il y a toujours les mêmes problématiques. Il y a des procédures en cours sur est-ce que des créances sont dues, sont pas dues, etc. Donc, il y a des éléments ou des petits biens qui pourraient être vendus, mais qui ne le sont toujours pas non plus. Parce que, de nouveau, il y a des procédures qui sont lancées pour dire qu'il faudrait que ça soit vendu plus cher, moins cher, etc. Donc, c'est vrai que c'est un domaine qui est assez... Enfin, c'est un dossier extrêmement compliqué entre ces 3 sociétés. Dont 2 sont un petit peu en urgence pour essayer justement de pouvoir dire il faudrait les résoudre, parce que c'est quand même celles qui concernent les anciens bains, les nouveaux bains, le parking, donc l'exploitation principale du site. Et puis tout ceci n'avance pas non plus avec le fait que la commune aussi à une époque a souhaité en termes, j'ai envie de dire, l'ancien conseil a plutôt préféré se mettre en attente plutôt que d'être actif dans une recherche de solutions globales pour le site. Donc ça n'aide pas non plus à résoudre un certain nombre d'interrogations qu'on pourrait avoir ou que les investisseurs pourraient avoir sur ce site, pour donner une image de dire est-ce qu'on ose y mettre un pied ou pas.
Le président souhaite désormais que la municipalité soit plus présente pour décanter la situation ces prochaines années et que les bains puissent rouvrir ou qu'une autre activité les remplace. Et si vous souhaitez en savoir plus, écoutez notre émission Le Mag dès 17h aujourd'hui. 2 Françaises de 21 et 25 ans ont été arrêtées par la police valaisanne dans le cadre d'une escroquerie aux faux policiers à Martigny. Elles s'en sont prises à des personnes âgées. L'entier du butin, composé des cartes bancaires, des objets de valeur et de liquidité, a pu être retrouvé. Une instruction pénale a été ouverte. La police cantonale valaisanne rappelle dans un communiqué que les autorités ne demandent jamais par téléphone ou en personne des informations bancaires, des codes PIN ou la remise de valeur ou de biens personnels. Et qu'en cas de doute, il est impératif de raccrocher immédiatement et de composer le 117, insiste-t-elle. Les deux réacteurs de la centrale nucléaire de Bezhnau en Argovie sont désormais débranchés en raison de la chaleur. Axpo avait déjà suspendu l'exploitation du premier bloc mardi. L'entreprise en a fait de même hier soir avec le second, a-t-elle indiqué aujourd'hui. Et d'ajouter que l'arrêt temporaire de la centrale ne menace ni la sécurité de l'approvisionnement en électricité, ni la sécurité des réacteurs de Bezhnau. Il a pour objectif de protéger la faune et la flore de la rivière qui souffre actuellement de la canicule. Une poursuite de l'exploitation de la centrale aggraverait encore la situation. C'était annoncé lors du vote parlementaire du 20 juin, c'est aujourd'hui confirmé. Ce matin, à Berne, les partis du centre, de l'UDC, du PEV et de l'UDF ont lancé le référendum contre l'imposition individuelle adopté de justesse par les deux chambres du Parlement fédéral. Cette alliance conservatrice doit recueillir et déposer 50 000 signatures d'ici au 9 octobre prochain à la chancellerie fédérale. Faut-il s'étonner de voir le centre et l'UDC faire cause commune ? Écoutez la réponse du nouveau président du centre, Philippe Mathias Brégui.
C'est une alliance qui a réalisé qu'il y a spécialement des couples avec un salaire bas ou une disparité entre les deux salaires ne profite pas de ce système-là. Ce n'est pas une alliance curieuse. Pendant toutes les discussions, c'était les mêmes partenaires qui étaient contre ce projet de l'imposition individuelle. Et à cause de ça, c'est logique que ces partenaires maintenant lancent le référendum.
Est-ce qu'on va voir s'opposer les conservateurs contre les modernes, les libéraux ?
Ça, c'est l'argumentation des autres partis qui est favorable à l'imposition individuelle. Pour nous, ce n'est pas ça la question. Pour nous, c'est la question si ce système est vraiment fair pour tous les couples mariés. Et on a constaté que si ça n'est pas le cas. Et on a créé un monstre de bureaucratie avec 1,7 million plus de déclarations des impôts.
Des propos recueillis par notre correspondant parlementaire Serge Jubin. Les Républicains au Congrès américain ont finalement réussi à surmonter les objections d'élus réfractaires dans leur camp pour se rapprocher d'une adoption définitive du vaste projet de loi budgétaire de Donald Trump. En tête d'affiche de ce projet de loi, la prolongation de colossaux crédits d'impôts adoptés lors du premier mandat du Républicain, l'élimination de l'imposition sur les pourboires, promesse phare de sa campagne, est aussi prévue, de même que des milliards de dollars supplémentaires pour la défense et la lutte contre l'immigration. Et on passe au sport et en basket. L'équipe de Suisse des U19 a signé l'exploit en huitième de finale de sa Coupe du Monde. Les protégés du coach Ivan Rudess ont battu la France 86 à 79 après prolongation hier soir à Lausanne. Ils défieront demain en quart de finale la Nouvelle-Zélande. Et en cas de nouvel exploit, ils pourraient se frotter aux grands favoris, les États-Unis, en demi-finale.
En football féminin, la Nati a perdu le match d'ouverture de son Euro à domicile sur le score de 2-1 face à la Norvège hier à Bâle.
Les joueuses de Pia Sundhage ont mené au score après une bonne entame de jeu concrétisée par Nadine Riesen, mais tout s'est inversé en moins de 5 minutes en deuxième mi-temps. La Nati n'a pas réussi à concrétiser ses occasions et payer cher ses erreurs. Johan Djourou, le coordinateur sportif de l'équipe nationale féminine, reste optimiste malgré la défaite.
Bah, je prends beaucoup de positifs quand même. Je trouve que la première période était très intéressante. Nous avons malheureusement pas réussi à mettre ce deuxième but qui nous aurait rendu la tâche plus facile. Donc après, il y a eu un bon retour, on va dire, des Norvégiennes qui sont venues beaucoup plus direct, qui ont marqué directement sur corner, puis qui ont pu enchaîner avec leur deuxième but. Donc, un peu compliqué de réagir, mais dans l'ensemble, j'ai envie de prendre le positif de la première période. Et je pense que la leçon à tirer, c'est que du moment où on doit finir les matchs, il faut qu'on le fasse.
Quels sont les principaux éléments positifs à retenir ?
L'entame, le jeu proposé, la diversité dans notre jeu, la verticalité, les échanges, les combinaisons. Et comme je dis, ce qui a malheureusement manqué, c'est la finition.
Et ce duel s'est disputé devant plus de 34 000 spectateurs dans le parc Saint-Jacques à Bâle. Un record d'affluence pour un match de football féminin. L'ambiance et l'émotion étaient au rendez-vous au coup d'envoi, comme l'explique la défenseuse suisse Viola Caligaris.
Oui, je crois que c'était un peu la question. Est-ce que ça va être pression ou est-ce que ça va nous donner d'énergie ? Ça nous a donné beaucoup d'énergie. C'était magnifique. Je crois que vous ne pouvez même pas imaginer comment c'est de jouer devant une coulisse comme ça, devant des gens comme ça. Tout le monde était rouge, tout le monde était pour nous. On a senti vraiment cette énergie positive. Ça nous a donné beaucoup de force. Et j'espère à Berne et à Genève, on va avoir la même chose parce que c'était vraiment incroyable. Je ne le regarde pas comme un truc normal, c'est vraiment... Merci à tout le monde qui était là, merci à tout le monde qui était à la maison, qui a regardé le match. c'est beau après tout ça qui s'est passé aussi les dernières semaines. Je crois on a donné quand même une réponse à tout ça. Je crois on peut être fier de ça qu'on a fait. On peut être fier de comment on a joué. Et si on continue comme ça, ouais, je crois que ça va être différent pour les prochains matchs.
Un dossier de notre envoyé spécial à Bâle, Émilie Moumentaler. La Suisse devra faire des points lors de ses deux prochains matchs face à des adversaires jugés plus abordables si elle entend voir les quarts de finale. Elle affrontera l'Islande dimanche à Berne.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.